Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, j'ai sous les yeux un livre qui s'intitule « La marquise de Tencin ». Alors, elle est témoin du 19e siècle et il y a une petite marge des frivolités de la monarchie à la République. Et bien sûr, c'est un livre qui est signé Georges Labrousse et qui est publié par Librinova. Donc, c'est de Georges Labrousse, la marquise de Tencin. Alors, descendant d'une vieille famille du Périgord, Georges Labrousse est un enseignant retraité, passionné par l'histoire et particulièrement par l'histoire locale. Il s'intéresse à la vie des petites gens, consacré un ouvrage à celle des paysans périgourdins du début du XXe siècle. Il a rendu hommage à son grand-père dans Justin Descombes, paysan périgourdin, poilu de 14 suites, et à son père prisonnier durant la Deuxième Guerre mondiale dans un ouvrage du Périgord à la Prusse orientale. Il a remis en lumière des personnages périgourdins autrefois célèbres, un peu pliants, des oubliés ou presque en Périgord. Alors là, on va voir cette semaine la marquise de Tencin. Alors il y a un avant-propos que je vais lire, bien évidemment. Voilà. La marquise de Tencin, femme de lettres, mais aussi femme d'affaires et femme d'alcôve, née à la fin du XVIIe siècle, représente bien une partie des Français du XVIIIe siècle, celle des nantis et des nobles par la première moitié de ce siècle. L'existence facile dans le luxe et l'insouciance de ceux-ci surpasse souvent la misère et de la majorité de la population. En suivant les péripéties de sa vie, on découvre l'évolution du pays, qui passe de la domination de la royauté absolue à un régime plus égalitaire, malgré des difficultés et les différentes embûches qui ont pu entraver la progression de ce changement. Après la disparition de la marquise en 1749, la deuxième partie du XVIIIe siècle voit l'arrivée des philosophes, des grands écrivains qui vont contribuer à la progression du pays vers plus de liberté et plus d'égalité. Mais cette évolution est lente et n'est pas ressentie en France d'une manière uniforme. La ville et la campagne sont souvent une vision différente de ces changements. 25 millions de Français ne sont pas logés à la même enseigne. 350 000 nobles constituent la classe dominante bénéficiant de privilèges. 120 000 membres dus au clergé, pour beaucoup ici de la noblesse, connaissent également des avantages dont la grande majorité de la population ne peut pas disposer. Le Périgord est loin de Paris, et malgré l'action des Périgordins très engagés, notre province connaît de nombreuses difficultés, car le monde rural subit plusieurs catastrophes climatiques. Dans les villes, la situation n'est souvent pas meilleure pour le peuple, car elle dépend beaucoup des récoltes enregistrées à la campagne. Toutes ces difficultés, accompagnées souvent d'hiver très rigoureux, ou des caprices de la météorologie finissent par la fin de l'ancien régime. La noblesse concurrencée par la bourgeoisie, qui s'est souvent enrichie par le commerce, perd peu à peu de son prestige et son autorité. L'ordre établi est également remis en question par des philosophes des Lumières, des loges maçonniques. Une part de la noblesse va tenter un retour à sa liaison avec des puissances étrangères quand la royauté se meurt en France. Louis XVI n'étant pas en mesure de maintenir son pouvoir malgré l'apparition de la bourgeoisie, de la finance, du commerce qui occupe de plus en plus de place dans le pays. La monarchie de droit divin succède un État libéral et laïque reposant sur les principes de la souveraineté nationale. Les vestiges de l'ancien régime sont remplacés par un ordre nouveau dans tous les domaines, mais le changement d'administration d'affaires publiques ne se fait pas sans quelques excès, et le pays connaîtra des batailles intestines sanglantes. Le siècle s'achèvera avec un goût un peu amer pour les partisans de la République, car celle-ci sera escamotée par le premier consul qui, en renforçant les pouvoirs administratifs, financiers et judiciaires, s'attribue une grande autorité qui s'apparente à celle que les Français ont tant combattu sous l'ancien régime. Alors, bien sûr, il y a Claudine Alexandrine, marquise de Tencin. Alors Claudine Alexandrine Guérin de Tansen, alias Gros-Temple, le 27 avril 1682, quelques semaines après l'achat Périgord du château de Lherme par un certain Clément. Ce château, construit entre 1500 et 1520 au cœur de la forêt Barade par Jean II de Calvimont, conseiller au Parlement de Bordeaux, avait connu de tristes événements, l'assassinat de Marguerite de Calvimont en 1605 sous les ordres de son mari et pris de Marie de Hautefort, le meurtre des deux frères Calvimont par des sbires à cette même Marie de Hautefort, mais aussi la mort de Godefroy de La Rochemont, tué en duel, et celle de Henri Bertrand de Baudet, tombé dans un traquenard. Alors le château de Lherme est en reconstruction en quelque sorte. Et je pense que les travaux sont bien avancés. Et puis il y a une courte note qui nous dit que le château de Lherme est en cours de restauration et je pense qu'il pourra se visiter très prochainement. Alors contre la somme de 40 000 livres, Clément avait acquis le château, mais aussi les terres sur Rouffignac, Miac-d'Overoche, Plazac, Fanlac, Tonac, Barf, Fosmagne, Namosy, Montastruc, Saint-Georges et Siorac. En réalité, se cachait derrière ce prétenant une autre Marie de Hautefort, ancienne maîtresse de Louis XIII, qu'il a surnommée l'Aurore, devenue duchesse de Schönberg après son mariage en 1646 avec le maréchal de France Charles de Schönberg, gouverneur du Languedoc, victorieux de l'armée espagnole à Le Cat en 1637. Elle assura l'entretien et fit exécuter les réparations en 1686. Elle loua le domaine à un fermier nommé François Migaud jusqu'à la mort de celui-ci en 1691. À l'âge de 75 ans, par testament, elle donna l'ensemble à ses neveux qui peu à peu le délaissèrent, ce château mal entretenu, si bien qu'en 1714, un inventaire des lieux dressé à l'occasion d'un bail en écrira de nombreux défauts. Par la suite, les propriétaires, criblés de dettes, dispersèrent de domaines qui, à la fin, fut abandonné. Le père de Claudine Alexandrine, conseiller au Parlement, était de noblesse récente. La famille Guérin de Tansin, en faisant partie depuis à peine un siècle, le trésorier du conseiller avait été colporteur. Son fils catholique modéré avait sauvé la ville de Romans des protestants et le roi Henri III l'avait anobli le 21 mars 1586. Malgré cela, cette famille était méprisée par la noblesse ancienne. Mais tous ces Guérins avaient le sens des affaires et avaient su s'allier par mariage à des familles de noblesse séculaire. De père en fils, depuis plus de 100 ans, il s'est levé à un degré et en agrandissant leur fief. À sa naissance, ses parents avaient déjà 4 enfants. François l'aîné devait reprendre la charge paternelle. Pierre serait cardinal. Marie-Angélique promise un beau mariage. Elle deviendra madame de Ferriole. Et François trouvera également un bon parti dans la noblesse, comme c'était l'usage à cette époque. Le père décidant, étant la plus jeune fille de la fratrie, Claudine Alexandrine, serait destinée au couvent. La pauvre. Effectivement, Claudine Alexandrine entra au couvent à l'âge de 8 ans, bien que plus intéressée par la vie mondaine que par la religion. La jeune fille prononça ses voeux le 25 novembre 1698 dans sa 16e année au monastère royal de Montfleury, tenu par les dominicains dans le massif de la Chartreuse, près de Grenoble. Bien que le cardinal Le Camus souhaitait une discipline plus stricte, ce lieu était agréable et le séjour peu contraignant. Les visiteurs étaient nombreux, les divertissements variés et une certaine liberté régnait dans cet établissement. Les promenades dans les jardins ou les vignes du monastère étaient l'occasion de conversations entre parents et amis. Des collations, des concerts y étaient organisés. Claudine Alexandrine était belle et elle avait beaucoup de succès. Le père Manic et son directeur intellectuel chargé de l'initier à la philosophie cartésienne n'étaient pas insensibles à cette beauté. Ça, je veux bien le croire. Bon, alors la jeune fille, très intelligente, affinait son esprit tout en étudiant les moyens de sortir de ce couvent. Son père mourut en 1705. Elle considéra donc qu'elle pouvait déserter ce lieu où elle étouffait. Mais devant la réticence de sa mère, elle dut attendre 1708 pour quitter Montfleury. Partie de sa prison, elle alla faire une cure Aix les Thermes pour soigner sa santé, et partit l'année suivante pour le couvent de Sainte-Claire à Annonay. Certains disent qu'elle avait trouvé là, près d'une tante bienveillante, responsable de cet établissement, un refuge pour accoucher de jumeaux qui auraient été conçus à Aix. Après sa demande, maintes fois renouvelée, le pape finit par accepter de la relever de ses voeux le 5 novembre 1712, mais elle avait déjà quitté Annonay dès la fin de 1711 pour vivre une vie libre qui lui manquait tant pendant ses séjours dans les couvents. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, on va retrouver un peu le Périgord, la contribution du Périgord à l'essor de la France. Toutes ces guerres que menait Louis XIV, nécessairement un grand nombre de canons. L'Andouillette de Longivert sollicita le Sieur d'Anse de la branche de Hautefort, car le minerai était de bonne qualité dans la région d'Anse, et l'étendue forestière permettait de fabriquer une quantité importante de charbon de bois. François de Hautefort s'associa avec Bertin, un bourgeois de Périgueux, pour exploiter les forges. Puis il décida d'en construire une à Anse, au confluent de la Branne et de l'Auvézère. Les travaux achevés en juillet 1691, la forge mise en fonction en 1692, le roi reçut une pièce de canon de calibre 48, deux pièces de calibre 24, 16 pièces de calibre 36, 4 pièces de calibre 16. Rapidement, la production augmenta, si bien qu'en 1696, elle fut de 257 pièces de canon et de 7 mortiers. Alors, chaque canon était transporté par une charrette tirée par 9 chevaux ou des bœufs, dans des conditions souvent difficiles. Le convoi atteignait le port de Peyzac-le-Mourcier à 34 km de la forge, après 3 ou 4 jours, quand les eaux étaient marchandes, sur la Vézère, bien entendu, c'est-à-dire propre à la navigation. Surtout au printemps et à l'automne, on embarquait les canons sur des gabarres. Ces bateaux à fond plat descendaient la rivière, retrouver la Dordogne à Limeur pour se rendre à Libourne en franchissant parfois des rapides comme à la Linde. Alors certains descendaient jusqu'à Bordeaux où la marine royale prenait en charge les canons. Alors, parallèlement à cette activité, le Périgord apportait une autre richesse au royaume. Les arbres de notre territoire étaient exploités pour la construction de navires, ce qui occasionnait des coupes rases de grande ampleur. On disait qu'il fallait plus de 3000 chênes pour un vaisseau de guerre et de 120 canons. La forêt de la Double était située à proximité des chantiers navals de Bordeaux, de La Rochelle, qui connaissaient une activité intense et avaient besoin d'une grande quantité de bois. Il fut donc exploité au maximum, si bien qu'après la grande gelée et une exploitation intensive devint peu à peu une lande inhospitalière parsemée d'étangs où la malaria sévissait. On disait que cette région était devenue un repère de brigands et de bêtes sauvages. Plus tard, sous le Second Empire, on procéda au drainage et au reboisement de pins maritimes. Alors, on va continuer un peu ce chapitre. C'était l'époque où la rivière Dordogne connaissait une activité batelière intense, car le niveau de l'eau n'était ni trop bas ni trop haut, donc moins dangereux. Les routes étaient souvent en très mauvais état. Le transport des marchandises par voie d'eau vers l'embouchure était privilégié. Le village de Spontour, situé sur l'eau de la vallée de la Dordogne, était réputé pour ses ateliers de fabrication de gabarres, ses bateaux à fond plat qui assuraient la liaison entre la lisière du massif central et les basses terres girondines. On y construisait des gabarres de 7 mètres de long, des coupés, des coujadours et des noces de 20 mètres qui pouvaient supporter jusqu'à 150 tonnes de charge. Combien d'attelages de bœufs aurait-il fallu pour transporter un tel fret? Ces gabarres chargés de bois, de chênes pour la tonnellerie, de piquets, de châtaigniers destinés aux vignobles, de charbon, de fromage, de cantal, de cuir, de peau, partaient de Spontour avec la bénédiction du curé, se dirigeaient vers Argentat, puis Souillac, Bergerac, les Bournes et même Bordeaux. Pour certaines d'entre elles, Argentat était un port bien particulier. On y complétait le chargement car en amont, on ne pouvait pas charger complètement les embarcations et le parcours était devenu trop difficile. Voilà, eh bien, je pense que je vous dirai la suite de la marquise de Tencin la semaine prochaine. Voilà, au revoir et bonne semaine, pas trop fraîche.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.